Alors dans cette étude intitulée Pourquoi je crois, nous étions en train de voir l'incarnation de Dieu parce que nous regardons à la révélation de Dieu à l'humanité. Nous avons vu que Dieu s'est révélé à travers la création, à travers la nature qu'il a créée. Nous avions vu que effectivement Dieu s'est révélé de manière spéciale, unique, à travers l'incarnation de Jésus-Christ. Et donc nous avions vu les différents éléments qui sont importants à connaître, à noter, et puis même à partager avec les uns et les autres concernant le fait que la naissance de Christ a été prophétisée, le fait que Dieu a voulu se faire connaître à l'humanité par le biais de son fils Jésus-Christ, quelque chose qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament et qui s'est accompli avec la naissance de Jésus-Christ. Nous avions vu également, donc la dernière fois, les éléments historiques, parce que souvent il y a la question de certaines personnes concernant l'historicité de Jésus-Christ. Est-ce qu'il a vraiment existé? Et on a bien souligné que dans la grande majorité des historiens, il n'y a pas de doute sur l'existence même d'un homme en Israël il y a de cela 2000 ans qui s'appelait Jésus et qui a vécu. Il y a assez de traces. Bon, on sait que la Bible pour nous est un document historique, mais beaucoup rejettent la Bible, donc ils demandent d'autres preuves. Et on a vu qu'il y a plusieurs historiens, qu'ils soient juifs ou même romains, qui ont écrit au sujet de Jésus-Christ, et par la suite, d'autres personnes ont partagé pour l'humanité. Ces différents éléments, parfois même certains d'entre eux n'étaient pas du tout chrétiens, n'approuvaient pas le christianisme non plus, mais qui donnent quand même cette trace historique de Jésus-Christ. Donc, on va voir ce soir par rapport au fait que oui, Jésus a vraiment vécu et de ce que nous dit la parole de Dieu, il est une personne unique. Il est une personne unique parce que la Bible le présente comme étant à la fois Dieu et être humain. C'est pour ça qu'on a parlé de l'incarnation, le fait pour Dieu, cet être spirituel, de devenir une créature, d'avoir un corps, d'avoir ce corps physique, et de voir que oui, c'était important aussi pour Christ de prendre non seulement une forme humaine, mais d'être un être humain. J'ai expliqué ça un peu au téléphone aussi cet après-midi avec quelqu'un au sujet du fait que il était nécessaire que Christ soit Dieu et homme à la fois, homme parce que en cela il a représenté l'humanité auprès de Dieu dans la justice que Dieu recherche et le fait qu'il ait vécu une vie parfaite du fait de sa divinité a permis que Jésus-Christ non seulement soit on a lu dans l'Épître aux Hébreux ces derniers jours que Jésus, il est le souverain sacrificateur parfait, qui n'a pas eu besoin même d'apporter de sacrifice pour lui-même, comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Et le fait qu'il a été ce sacrifice parfait, sans péché, sans tache, et ainsi apporté à Dieu eh bien, un sacrifice parfait pour qu'il y ait eh bien, un pardon parfait, un salut parfait en Jésus-Christ. Mais c'est vrai que il y a certains groupes, certaines sectes même, qui vont nier l'une ou l'autre des choses concernant Jésus-Christ, soit son humanité ou sa divinité. Nier le fait que Jésus soit vraiment venu dans un corps, c'est pas quelque chose de nouveau, ça existait déjà des siècles, il y a des siècles de cela. Le fait que certains nient la divinité de Jésus-Christ. Et ce qu'on va faire ce soir, c'est vraiment regarder plusieurs passages des Écritures qui nous montrent pourquoi, moi je crois, et beaucoup nous croyons, que Jésus était bel et bien un être humain, et qu'il était également divin, et que c'est même lui-même, on le verra, qui a proclamé être l'un et l'autre. Son humanité, elle est bibliquement incontestable. On sait que Jésus est né d'une femme. Je crois que ça, c'est vraiment le premier élément qui nous qualifie en tant qu'être humain. Si j'étais né d'une girafe, je ne serais pas un être humain. Mais Jésus est donc né d'une femme, comme nous le rappelle l'évangile de Marc au chapitre 6, verset 3, où quelqu'un pose la question hein, concernant Jésus en disant, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute, parce que on le sait, la famille hein, de Jésus ne croyait pas en lui hein, au départ. Galates chapitre 4 et verset 4 nous rappelle aussi que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Donc c'était dans le plan divin que Jésus soit bel et bien né d'une femme pour qu'il puisse être un être humain. Plusieurs passages nous montrent des caractéristiques importantes et qui soulignent le fait que oui, il était bel et bien humain. Il a connu la soif, il a connu la faim. Hein, on voit cela dans Matthieu chapitre 4 et verset 2. Hein, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Bon, déjà, on sait qu'on souligne bien là, il eut faim, mais s'il a jeûné, ça veut dire qu'il mangeait auparavant. Et je veux dire, on mange avant tout par nécessité. Hein, c'est vrai qu'on peut manger par plaisir du goût, hein, et on apprécie les repas et les choses délicieuses, mais il avait jeûné pendant 40 jours et il eut faim. Hein, et plus loin, au chapitre 21, là aussi, hein, il parle de Jésus-Christ que, retournant vers la ville, il eut faim. Jean chapitre 19 hein, nous mentionne le fait que voilà il a eu soif. Rappelez-vous, hein, c'est que il est sur la croix déjà et là il nous parle du fait que c'était quelque chose qui avait été prophétisé hein, concernant sa situation et le Seigneur a dit j'ai soif, j'ai soif. Et c'est là que bon les soldats viennent avec ce vase plein de vinaigre et essaient de lui donner ce vinaigre à boire. Il a connu la fatigue. Hein, je crois que ça, c'est aussi une bonne caractéristique de l'être humain. Après les efforts, on est bien fatigué. Il a dormi. Hein. Rappelez-vous de ce passage dans Luc chapitre 23, chapitre 8, verset 23, où ils étaient sur la barque et le Seigneur s'était endormi hein, et qu'il y avait ce tourbillon hein, qui fonçait sur la barque et les disciples étaient en péril. Et donc, s'il était endormi, c'est qu'il était fatigué. Parce que le sommeil, c'est pour ça, c'est un soin réparateur, comme on dit. Hein, on a besoin du sommeil pour que notre corps puisse bien se reposer, hein, reprendre des forces après une dure journée. Dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc, là aussi, hein, au moment où le Seigneur était en agonie, hein, il priait plus instamment hein, dans le jardin de Gethsémané, et là, il nous parle de sa sueur. Hein, il a transpiré. Hein, on transpire parce que on fait des efforts. Hein, et donc, ces versets-là, et je partage ça encore une fois, parce que oui, certains hein, niaient hein, que Jésus, que le Messie, le Fils de Dieu, était vraiment venu hein, dans un corps humain, qui était vraiment un être humain. Ces éléments-là, pour moi, sont incontestables, indéniables. Hein, parce que, encore une fois, c'est pas juste qu'il avait un corps, c'était un corps qui fonctionnait et qui fonctionnait comme le commun des mortels. N'est-ce pas? Il a eu faim, il a eu soif, il était fatigué, il a dormi, hein, il transpirait. L'élément que, bien sûr, pour nous, nous retenons comme étant important sont les deux suivants. C'est que Jésus, d'abord, il a souffert, n'est-ce pas? Il a souffert, on a parlé d'agonie hein, dans Luc chapitre 22, mais Pierre nous rappelle dans sa première épître au chapitre 4, verset 1, que Christ a souffert dans la chair. Il a souffert. Et les raisons aussi, hein, et on a vu ça aussi dans nos lectures, c'est que parce qu'il a souffert, parce qu'il a vécu en tant qu'être humain, et qu'il a également hein, traversé les épreuves de la tentation. Hein, au début de son ministère, tous ces éléments nous montrent que, voilà, il est un être humain et nous pouvons donc regarder à Christ comme une personne qui Il sait ce que c'est que d'être un être humain. C'est terrible, parce qu'on serait peut-être même en train de se dire que ah ben Dieu, il est Dieu, il sait pas ce que c'est que d'être être humain. Dieu, il est omniscient, Dieu, il nous a créés, il sait toutes choses, il connaît notre situation. Mais c'est nous qui avions besoin de savoir que Dieu sait. Et le fait de savoir que Christ a vécu toutes ces choses et a souffert toutes ces choses, pour nous, nous ramène au fait qu'il peut mieux nous comprendre. Si on a, il avait besoin de mieux nous comprendre, mais on sait que, voilà, il nous connaît et nous comprend. Lorsque le Seigneur est mort sur la croix, il y a eu, c'est les soldats qui ont percé son côté avec une lance, et du corps est sorti donc du sang et de l'eau, hein, c'est ce qui se produit hein, à la mort. Il y a cette séparation hein, dans le sang de l'être humain, et ça nous montre, encore une fois, il a saigné, il est mort, il a saigné. Les soldats, encore une fois, on utilise souvent cet argument-là quand on parle au moment de Pâques, on va parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Il y a certains qui disent qu'il n'est pas mort, il était juste évanoui, etc. Bon, les soldats, c'était des soldats romains, des soldats aguerris, hein, des soldats qui savaient reconnaître quand une personne était morte. Et là, il n'y avait pas de doute possible pour eux. Et donc lorsque le Seigneur mourut sur la croix, avant cela, il avait poussé ce grand cri, et il a rendu l'esprit, hein, il expira. Voilà, tous ces éléments-là qui nous amènent à comprendre que Jésus était bel et bien un être humain. Ne peut pas avoir de doute là-dessus. L'autre élément, c'est sa divinité, n'est-ce pas? Et sa divinité, dans les Écritures, elle est proclamée. Là aussi, hein, je veux dire, si on est en train de regarder à la révélation de Dieu, l'incarnation de Jésus-Christ, et je sais que, bon, là, je présente des versets, d'accord, des versets qui viennent de la Bible, et on verra, hein, Dieu voulant plus tard, cette autre révélation de Dieu à travers les Écritures, et de voir pourquoi et comment nous pouvons avoir confiance dans ces écrits, mais ces écrits nous parlent de la divinité de Jésus-Christ. Comme étant quelque chose, encore une fois, d'incontestable et indéniable. Sa divinité, elle a été proclamée par ses disciples. C'était les personnes, on va dire, les plus proches du Seigneur pendant son ministère terrestre. Et hein, il passait quasiment 24 heures sur 24 avec lui, 7 jours sur 7. Mais au fur et à mesure qu'ils côtoyaient le Seigneur Jésus, ils ont commencé à comprendre un peu mieux qui il était. Dans Matthieu chapitre 14, verset 33, il nous est dit que ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus. OK? Donc, leur réaction hein, après l'événement dans la barque, c'est que ils reconnaissent que Jésus est Dieu et ils vont l'adorer. Et pour des Juifs, il était clair et évident, on n'adore que Dieu. N'est-ce pas? Et il y a cette déclaration de leur part. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc les disciples ont proclamé la divinité de Christ. Et là, vous avez une flopée hein, de versets qui vous sont donnés dans l'évangile de Jean. Hein, au chapitre 1er, verset 49, tu es le Fils de Dieu. Chapitre 11, verset 27, il dit, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jean, chapitre 20, verset 28, hein, quand Thomas est en train de douter par rapport à la résurrection de Jésus, est-ce que c'est vraiment lui? Et le Seigneur lui dit, ben, touche mes mains, hein, regarde. Et Thomas s'exclame, mon Seigneur, mon Dieu. Ensuite, bien sûr, il y a les épîtres, comme celle de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 15, qui nous rappellent que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, nous rappelant que lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, il est venu comme étant Dieu, hein, une image, c'est pas juste une image, une copie, mais si on devait prendre l'idée de copie, hein, c'est vraiment comme si on clonait, si vous voulez, mais bon, il est Dieu à part entière, et il est le premier-né de la création, hein, dans le sens où il est le premier hein, en toutes choses. Colossiens 2,9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. J'aime bien comment Paul, il doit vraiment bien appuyer, exagérer peut-être un peu la chose en disant, il aurait pu dire, en lui habite la plénitude de la divinité, et ça suffit, la plénitude de la divinité, bon voilà, c'est tout Dieu. Hein, mais là, il fallait bien mettre toute la plénitude. Hein, pas juste un petit peu de plénitude, mais toute la plénitude de Dieu. Hein, je pense que là, Paul, il voulait vraiment faire bien comprendre aux Colossiens que la divinité de Christ est quelque chose qui ne pouvait pas être nié hein, en connaissance de la personne de Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a déclaré lui-même. Mais je veux revenir encore une fois dans Jean chapitre 9. Versets 35 à 38, il nous est dit, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il? Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? La réponse de Jésus, tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Donc, si jamais vous, dans votre témoignage avec les autres, quand vous présentez l'évangile, vous parlez du Seigneur, et vous avez par exemple une personne de confession musulmane qui nie la divinité de Jésus-Christ, qui vont dire Jésus n'a jamais dit être Dieu, montrez-leur ce passage-là. Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair hein, quand Jésus exprime. Hein, tu as vu Dieu, hein, celui qui te parle, il est Dieu, hein, il est fils de Dieu. Et là, la réaction, c'est je crois, Seigneur. Et encore une fois, il l'adora. Et donc, on a donc les disciples qui ont proclamé la divinité de Jésus-Christ, comme on le voit ici dans ce passage, et ça introduit un paragraphe suivant, c'est que Jésus lui-même a dit être Dieu, et il l'a dit de différentes manières. Hein, comme dans Jean chapitre 10, verset 30, où il dit, moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Si on prend le temps d'une grande réflexion hein, théologique sur l'implication de ce que Jésus est en train de dire là, il n'est pas juste en train de dire, ouais, nous on est super copains, on s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde, on pense pareil, c'est bien, c'est merveilleux. Non, c'est pas ça. Il est un. Parce que, comme on a déjà eu l'occasion de voir ces choses-là, c'est que Dieu existe, il est un, il existe en trois personnes uniques, distinctes, mais toutes coexistantes et coégales. Et c'est un mystère pour nous d'essayer de comprendre comment cela est possible. Moi, je dis tout simplement, c'est Dieu. Mais. Voilà, quand il dit le Père et moi sommes un, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et plus loin, justement, il continue au verset 36 en disant, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Parce que quand Jésus a dit ça, les Juifs, automatiquement, dans leur esprit, dans leur raisonnement, ils ont compris que Jésus se fait égal à Dieu. Et pour eux, donc, cela constitue un blasphème. Hein, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, Christ a proclamé lui-même sa divinité. Les gens avaient bien compris cela à son époque. Les gens étaient même prêts à le lapider, à le mettre à mort à cause de ce qu'il disait à ce sujet. Hein, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, hein, il dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Rappelez-vous que, encore une fois, le thème ici hein, qu'on est en train de présenter, c'est le fait que Dieu s'est révélé à l'humanité par l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu s'est fait être humain afin de révéler Dieu à l'humanité. Et c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans ces passages. Toujours l'évangile de Jean, un peu avant, au chapitre 8. Et là, également, hein, il y a. Quand on comprend bien le passage, quand on lit bien le texte, on comprend ce que Jésus est en train de dire, et les Juifs à l'époque avaient bien compris ce qu'il était en train de dire. Il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et alors là, les Juifs lui disent, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit, avant qu'Abraham fût, j'existais. Il n'a pas dit, il n'a pas fait une faute de grammaire, ce n'était pas une erreur de sa part. Non, il a bien dit, je suis. Et je suis, quand on étudie l'Ancien Testament, on comprend que c'est ainsi que l'Éternel s'était présenté à l'humanité. Je suis celui qui suis. Hein, c'est-à-dire que Dieu, il est éternel. Hein, il est constamment dans un état, on va dire, présent. Nous, bon, voilà, on a le passé, on a le présent, on a le futur. Mais pour Dieu, il est éternel, il est en dehors du temps, il a créé le temps. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Je suis, parce qu'il est la vie, il existe, il est éternel. Et quand Jésus dit cela, avant qu'Abraham fût, je suis, que font les Juifs là-dessus? Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et est sorti du temple. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps pour lui, hein, n'est-ce pas, de mourir. Hein, son objectif, hein, il a bien fait comprendre qu'il était venu dans le monde afin de donner sa vie, hein, que personne ne la lui prendrait, c'est lui qui la donnerait. Le diable également a attesté de la divinité de Jésus. Hein, lorsqu'il l'a tenté dans le désert, il s'approcha de lui et lui dit, si tu es fils de Dieu. S'il dit ça, c'est parce que, voilà, il comprend qui il a en face de lui. Hein, j'aime bien qu'il le mette un peu au conditionnel, comme s'il lui-même doutait qu'il soit vraiment fils de Dieu, mais il reconnaît par cela et par la nature des tentations que s'il réussit cette épreuve, eh bien là, il est véritablement fils de Dieu. Il n'y a pas de doute possible. Si tu es fils de Dieu, alors on va voir si tu réussis hein, cette épreuve-là. Deuxième épreuve, troisième épreuve. Et finalement, hein, le Seigneur Jésus, à chaque tentation, a répondu par la parole de Dieu et a vaincu hein, l'adversaire ce jour-là sur ses tentatives. Mais ça a été un moment également où Jésus a manifesté sa divinité parce qu'aucun autre être humain n'aurait pu répondre de telle manière au diable et dans ces situations-là. Et voilà, il a confirmé ce que peut-être le diable doutait, mais il a confirmé qui il était en étant vainqueur des tentations. Les démons également. Matthieu chapitre 8, verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses ici hein, qu'on peut relever, hein, outre le fait qu'ils reconnaissent Jésus comme fils de Dieu, mais ils savent très bien quelle est leur destinée, n'est-ce pas? Ils savent très bien ce qui les attend. Mais les démons eux-mêmes hein, reconnaissent que Jésus est véritablement donc fils de Dieu et qu'il a proclamé cela au cours de sa vie et au cours de son ministère, si bien qu'il n'y a pas de doute possible par rapport à cela. Alors, on a également, plus loin dans Marc chapitre 3, hein, ces esprits impurs. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi, j'avais plusieurs pages blanches là, dans mes notes, elles se sont insérées dans l'impression. Mais Marc chapitre 3, verset 11, hein, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le fils de Dieu. En Luc chapitre 4, verset 41, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et disant, tu es le fils de Dieu. Hein, mais il les menaçait, ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient hein, qu'il était le Christ. Encore une fois, il faut voir les choses qu'il y avait un plan, un programme hein, que Jésus suivait et que là n'était pas encore le moment hein, pour révéler toutes ces choses. Les pharisiens. Les ennemis hein, de Jésus-Christ. Matthieu 26, verset 63, où eh bien, Jésus garde le silence hein, devant ceux qui le menacent et l'attaquent. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc eux-mêmes comprenaient bien que Jésus bah, avait dit cela de lui, que les gens croyaient croyez ça de lui? D'où la question. Hein, dis-nous, hein, si tu es le fils de Dieu, hein, donne-nous cette réponse-là. Alors, le Seigneur, il avait déjà répondu à cette question-là par son ministère, par tout ce qu'il avait accompli, tout ce qu'il avait enseigné, hein, tout ce qu'il avait proclamé de lui-même. Les autres juifs, également, hein, comprenaient les implications des paroles de Jésus. Marc chapitre 2, verset 7, hein, « Comment cet homme parle-t-il ainsi, il blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Hein, parce que Jésus avait pardonné les péchés, eh bien, il disait, mais il n'y a que Dieu qui puisse pardonner. Alors, il est en train de blasphémer parce qu'il se fait Dieu. Et cela, ça a été récurrent hein, dans Jean chapitre 5, verset 18, là aussi, hein, il voulait lui nuire, hein, le faire mourir parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisant lui-même égal à Dieu. Hein, Jean 10, 33 également, on a vu un peu ce passage tout à l'heure. Matthieu 27, 40, hein, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Donc, tout le monde était bien au courant de ce que Jésus avait proclamé à son sujet, de ce que ses disciples également ont dit de lui, si bien que même au moment de son procès et au moment de sa crucifixion, si tu es fils de Dieu, les gens n'avaient pas de doute que telle avait été la déclaration de Jésus lui-même et de ceux qui le suivaient. Les Romains, également, avec ce centenier à la crucifixion, hein, qui était là pour garder Jésus, il y a ce tremblement de terre, hein, et tous hein, furent donc saisis d'une grande frayeur, et cette fameuse phrase, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Donc on a ici, on va dire, une panoplie de témoins, ceux qui ont côtoyé le Seigneur le plus près, hein, ceux qui ont entendu ses discours et qui n'étaient pas contents de ce qu'il disait, ses ennemis donc, l'adversaire, les démons, et même ceux qui le crucifiaient, les Romains, dans tous ces groupes, cette déclaration que Jésus est fils de Dieu. Même si pour beaucoup, certains doutaient et ils cherchaient à susciter quelque chose, mais il n'y a pas de doute possible que ce que Jésus a dit, ce que les disciples ont dit, ce que les autres ont proclamé, s'ils ont entendu à ce sujet-là, il y a tellement d'éléments qu'on ne peut pas dire que Jésus a jamais dit être Dieu. Ce n'est pas possible. En regardant hein, cette flopée de témoignages-là. Alors Blaise Pascal, vous le connaissez, pas besoin de réexpliquer qui il est, hein, mais il a dit « Il y a assez de preuves pour convaincre quiconque ne s'y opposant pas, hein, à la foi en Jésus-Christ, mais pas assez pour guider vers le royaume qui que ce soit n'en ayant pas la volonté. » Et on en revient à ça, finalement, à chaque fois. C'est une question de volonté. Hein, cette personne avec qui je discutais au téléphone aujourd'hui, il sait, hein, on lui a déjà expliqué plusieurs fois hein, quel est l'évangile, hein, ce que ça signifie, ce que ça implique, le fait de croire en Dieu, la nécessité de placer sa foi en Jésus-Christ, de se repentir de ses péchés. Hein, et il sait exactement ce qu'il a à faire. Mais malheureusement, à chaque fois, il dit « je n'y arrive pas ». Je n'y arrive pas. Et à chaque fois, je suis obligé de lui rappeler, c'est une décision qui vous est propre, qui vous est personnel, il n'y a que vous qui puissiez l'apprendre, mais c'est comme pour plein de choses dans la vie, c'est on a les informations, et soit on les accepte, soit on les rejette. On ne peut pas dire « j'y arrive pas », c'est une question de volonté, à la fin. Et quand on a tous ces éléments-là, concernant le fait que Dieu se soit révélé à l'humanité, par le biais de l'incarnation, par le biais que ben, Jésus donc, est né d'une femme, il a vécu, il était un homme, il est mort, il a donné sa vie, il est mort sur la croix, et de ce qu'on verra plus tard, du témoignage de ceux qui étaient là, il est ressuscité le troisième jour, mais de voir que Dieu a choisi ce moyen extraordinaire tout de même, n'est-ce pas, pour se révéler à l'humanité. Et on ne comprend pas encore toutes les implications que ça a eu pour le Fils de Dieu de devenir un être humain. Hein, vous m'avez déjà entendu dire hein, plusieurs fois, je n'arrive pas à comprendre comment celui qui est la vie a connu la mort. Comment celui qui est saint est devenu péché pour nous. Hein, quand on considère tout ce que Dieu il a accompli en Jésus-Christ et ce que ça a impliqué pour lui, il y avait surtout beaucoup plus de bénéfices pour nous, quelque part, que pour lui. Et en ça, je regarde à l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ comme vraiment étant quelque chose d'extraordinaire, que c'est en lui, hein, comme on l'a vu dans Jean chapitre 1er, que eh bien, c'est par Jésus-Christ hein, qu'on connaît le Père. C'est lui qui nous l'a fait connaître. Mais de voir les raisons de pourquoi Dieu a choisi de se révéler ainsi, je crois que c'est bien plus qu'une révélation spéciale, c'est pour moi, la plus grande révélation de toutes. Est-ce qu'il y a des commentaires ce soir par rapport à ce que nous avons vu?